Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Hello, bonjour, coup d'envoi de ce 10e épisode de la saison 2 de Focus Store, le podcast que la planète culture au grand complet nous envie. Toutes les deux semaines, la rédaction du magazine Focus Vif lit un livre, voit un film et une série et écoute un disque, mais pas n'importe lesquels. Non, les plus commentés, les plus glosés, les plus exposés du moment, à nous d'infirmer ou de confirmer la hype, chacun depuis sa spécialité journalistique et chacun depuis son cerveau musclé de critique. Comme il sera beaucoup question en filigrane aujourd'hui de Tintin, je vous présente l'équipe autour de la table en mode tintinesque. Il y a le rédacteur en chef du magazine, Laurent Raphaël. Eh ben, c'est Tintin. Enfin, je veux dire physiquement, c'est Tintin.
Il y a un peu de ça,
Un petit peu plus grand peut-être. Enfin, il y a Nicolas Clément qui est calé en ciné et en BD et qui est le sosie avéré du général Alcazar.
Super.
Ouais,
super.
Il est super beau le général Alcazar.
Merci Myriam.
Et enfin, il y a Olivier Van Varenberg qui couvre pour nous l'actualité des mauvais genres littéraires et qui est le fils naturel de la Castafiore et du boucher sans eau.
D'accord. Bon, je vais y aller, je pense. C'était sympa. Salut Myriam.
De rien. On vous parle aujourd'hui du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, de l'expo 58 de Jonathan Coe, de la série Broadchurch et du dernier album de Pharrell Williams. Voilà, comme ça vous savez tout. Et c'est parti.
Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy?
Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur.
Ainsi ma vie commença. Apprenti lobby boy débutant sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui.
Je vous aime.
Je vous aime. C'était de la dynamite, cette femme au plumard.
Elle avait 84 ans.
J'en ai eu des plus vieilles.
Ce fut également l'époque où je rencontrais Agatha.
Elle est charmante, elle est si charmante.
Il flirte avec toi?
Oui.
Je vous donne ma bénédiction.
Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur.
The Grand Budapest Hotel, le film qui fait l'unanimité partout où il passe, le grand parc d'attractions pour adultes de Wes Anderson. Dans les pages de Focus, Jean-François Peugers, le plus grand fan vivant de Wes Anderson à mon avis, écrit qu'on ressort de ce film foisonnant, fort d'un sentiment voisin de la plénitude. Et oui, rien que ça. L'histoire est racontée par un écrivain qui se souvient d'une époque où, en panne d'inspiration, il était parti passer quelque temps dans un grand hôtel en décrépitude dans la république imaginaire de Zubrowska, en Europe centrale, qui fait beaucoup penser à la fameuse île d'Avi de Hergé. Hein, voilà pourquoi je vous parlais de Tintin en prologue.
Je cherchais.
Et là-bas, il rencontre le propriétaire de l'hôtel qui lui-même se souvient de son entrée au Grand Budapest Hotel en tant que groom sous les ordres d'un bien étrange concierge, Monsieur Gustave. Et nous voici plongés dans des aventures à ramifications multiples tenant du cartoon dans un décor de carton-pâte. Sur le plan de la mise en scène, c'est époustouflant. Sur celui de l'écriture, un peu moins, je trouve, avec pas mal de gags inutiles, un peu peau de banane qui ratissent un peu large. C'est du grand show, du grand divertissement avec un casting de fou, un grand calendrier de l'avant avec des surprises derrière chaque porte de l'hôtel, mais j'ai toujours le même problème avec Wes Anderson, je ne comprends pas ce qu'il veut me raconter, à moins, et j'en ai bien l'impression qu'il ne veuille rien me raconter du tout. Nicolas Clément, quel est ton avis à ce sujet?
Ah bah écoute, c'est plus ou moins le même que le tien.
C'est pas vrai, c'est la première fois, je pense, en 2 ans.
On va fêter ça. Non mais... C'est vrai que bon, on a l'impression que Wes Anderson fait toujours un peu le même film, et particulièrement ici, je trouve que c'est le film un peu synthèse de son cinéma. Finalement, il y a les scènes dans le train couchette qui sont, enfin, réminiscentes du Darjeeling Limited. Mm-hmm. Il y a les amourettes entre les deux ados qui sont pratiquement les mêmes que celles entre, ouais, ou le frère et la sœur dans Royal Tenenbaums, ouais, aussi. Il y a des scènes d'animation stop motion dans la neige qui font Fantastic Mr. Fox. Et l'hôtel fait même penser à l'hôtel d'Hôtel Chevalier, qui était le court-métrage qui précédait.
Où tu vas jusque là,
Darjeeling Limited avec Nathalie Portman, qui était nue quand même. Donc,
ah oui, voilà pourquoi.
Voilà, à voir Hôtel Chevalier. voilà, et alors, dans ses films, il met toujours en place aussi un peu un système qui fait qu'il travaille un peu toujours les mêmes figures. Il y a toujours un peu cette idée de faire des vignettes vintage, de faire des plans fixes sur des personnages muets, inexpressifs. Il travaille toujours un peu cet humour absurde. qui est pas toujours drôle. C'est vrai, moi, par exemple, ici, j'ai pas ri du tout. Alors, je trouve pas que l'humour est mauvais, mais simplement, l'humour me fait pas rire, quoi. Donc, oui. Mais bon, voilà.
C'est très peau de banane, non? Avec des chutes, avec des...
Oui, oui, mais
on sourit quand même, il y a du plaisir.
Oui, voilà, on sourit, mais on ne se frappe pas la cuisse.
Non, c'est vrai, c'est peut-être pas le but, hein, mais...
C'est vrai. Et alors, il travaille aussi toujours plus ou moins avec la même famille d'acteurs. Ici, c'est un casting de dingue, en fait, mais où on retrouve effectivement plusieurs figures de son cinéma, comme Bill Murray, ouais. Owen Wilson, Jason Schwartzman, etc. Donc, avec ça, on peut dire que c'est vraiment un auteur qui a ses thèmes, ses obsessions, etc. Mais je trouve que c'est un peu ses limites aussi. On a l'impression qu'il tourne un petit peu en rond. Et on a aussi un peu l'impression qu'il est toujours en train de dire « Regardez ce que je fais, comme c'est décalé.
Mm-hmm. »
Il y a toujours un
et
peu
comme
ce
c'est cool.
Truc. Oui, peut-être. Mais enfin, je pense qu'il est sincère, en fait, dans sa démarche. Mais il est dans un truc tellement stylisé, comme ça, qu'on a un peu l'impression de feuilleter un beau livre d'images ou de visiter une belle maison de poupées, voire d'être dans un magasin de porcelaine. C'est très joli, mais c'est vrai que ça semble un peu vain par moment. Cela dit, je trouve que le film est quand même très rythmé, efficace, amusant, les personnages sont attachants et c'est relativement réussi, je trouve. Mais c'est vrai
qu'il y a quand même un peu de fond aussi sur la...
Ah ouais,
bah, derrière tout cet aspect carton-pâte et burlesque, il y a quand même petite leçon sur la montée de la barbarie, le dandysme et le raffinement comme barrière à une forme au fascisme et à la barbarie.
Il y a un humour juif dans tous ces films quand même assez subtil qui vient
exactement
se mettre là-dessus.
Et ici, avec une dimension chronologique et un travail sur le temps qui est peut-être plus important que dans ses œuvres précédentes,
mais c'est un peu
dans le labyrinthe. Ici, le labyrinthe, c'est un peu le temps qui se déploie et qui se mange avec une espèce de cycle comme ça.
Et tu as vu ça, toi?
Voilà, mais c'est dans le personnage de Monsieur Gustave qui essaye de faire valoir les bonnes manières en toutes circonstances face à cette barbarie montante. Et bon, on va voir que ça ne fonctionne pas, mais c'est quelque part...
Ça se finit là-dessus, d'ailleurs.
Voilà, c'est peut-être un peu une lettre un peu de déception aussi par rapport à ce que lui est, Wes Anderson. Et c'est ce côté poétique où il aimerait bien que les belles choses l'emportent sur la laideur du monde, mais il est quand même relativement lucide et ce message, il n'est pas dupe et ça, il sent bien que ça ne fonctionne pas. Jusque dans le personnage de l'écrivain qui est plutôt un triste cire, enfin qui a perdu tout ce côté grandiloquent et qui fait le sel du concierge de l'hôtel.
Et c'est vrai que Monsieur Gustave revient toujours avec ce concept d'humanité qu'il défend et qu'on peut clairement opposer à la barbarie montante dans...
Sans trop y croire lui-même, parce que ça qui est amusant dans le personnage truculent, c'est qu'il aussi à côté, il profite du truc, c'est un gigolo. Enfin, c'est pas un monstre de vertu non plus, quoi.
On pourrait même aller plus loin avec parce qu'il devient un peu une sorte de père adoptif pour le jeune groom qui est un étranger, et on pourrait dire que le film défend même une idée d'adoption de la mixité en opposition à la pureté du sang qui est défendue par l'extrémisme
enfin c'est des extrémistes un peu de soldats de plomb comme ça.
Oui, mais c'est ça la subtilité, c'est un fond quand même très dur. On est dans les années 30 avec un dictateur, un empire qui est en train de se lever, qui va faire des choses atroces, on le sait, mais il y a un côté dictateur presque à la Chaplin dedans, s'amuser de ça alors que c'est quand même très grave. Enfin, voilà,
ils se foutent de leur tête sans trop appuyer le trait, quoi. Donc les soldats sont ridicules,
bouffons,
mais voilà, des bouffons, mais sans vraiment qu'il ait besoin de venir appuyer. Et c'est ça la subtilité. Je trouve que par rapport à ça, et c'est cohérent avec toute sa carrière, il y a quand même une espèce de subversion aujourd'hui à vouloir défendre une espèce d'apparat comme ça, de bienséance, de bonne manière, qui paraît un peu complètement décalé dans ce monde un peu vulgaire dans lequel on vit.
Mais y a de ça. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais, Myriam, sur le début, c'est vrai qu'il y a un problème de narration. Ce qui m'a impressionné chez Wes Anderson dans tous ses films, encore plus ici, c'est que chaque plan est important. Chaque plan, vraiment chaque seconde est réfléchi. Il n'y a pas un plan qui est fait inutilement ou de raccro. Toutes les images sont travaillées et on a presque envie d'avoir un portfolio des images du film plus que le film. Tellement l'intérêt de son cinéma se trouve là.
Et ici, tu trouves que c'est le cas aussi?
Ah oui, il y a des images. On a envie de mettre pause au cinéma pour avoir le temps de les regarder, de voir ce qu'il a mis, parce que c'est un fou détail.
Mais est-ce que chaque plan est important? Enfin, je trouve que c'est un film de décoration.
Purement pictural. qui moi me plaît, qui est peut-être moins cinématographique. C'est pour ça que je dis qu'il est de plus en plus presque un illustrateur qu'un cinématographe.
Il y a peu de cette fascination qu'on peut avoir
C'est un homme d'image.
Avec une maquette un peu XXL d'un train électrique, où il y a toujours ce côté irréel, on sait que c'est une maquette, et en même temps il y a un côté fascinant à reproduire comme ça à une échelle plus petite la réalité. Et je trouve qu'ici il arrive à rendre ça, comme tu dis, dans chaque plan, et on a envie de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans la réalité ou pas.
Mais il y a des plans où je pense que ce sont vraiment des maquettes qui sont filmées.
Ah, bien sûr,
le grand restaurant.
Tout à fait. Il joue avec ça.
Funambule.
Il y a de la fantaisie permanente dans son cinéma. C'est pour ça qu'il y a une liberté quand même chez Wes Anderson qui est intéressante. Comme tu dis, le joli, c'est pas spécialement le plus tendance ces derniers temps. Le fantaisiste, il défend cette idée-là. C'est quand même.
Ce côté artisanal, quoi.
Oui, complètement. Il y a du Gondry dans sa manière de faire.
Oui,
un peu,
oui, c'est vrai.
Fantastic Mr. Fox, c'était génial comme dessin animé, comme animation. Dans tout, il arrive à mettre son univers qui est parfois effectivement dérangeant. Dans Tenenbaum ou La vie aquatique, parfois il te laisse un peu à côté parce que c'est trop pictural ou trop private joke. Ici, je trouve que c'est très synthétique, synthétisé. C'est plus un résumé de son,
ouais, complètement. Ouais, c'est
son
ça,
univers
ouais.
que se répéter, je trouve. Voilà. Et puis les acteurs, il y a quand même des perles dedans. Il y en a trop.
Ralph
Fiennes est parfait, quoi. Il est parfait, il est vraiment génial.
Il n'a jamais été aussi bon, en fait. Je pense.
Il y a de la fantaisie, on voit qu'il a. Ça pétille dans l'œil, quoi. Ils ont dû se marrer en faisant ce film et en jouant ce genre de choses.
Avec des grosses stars qui viennent faire juste un caméo.
Oui, c'est ça.
Hein.
Voilà. Comme Bill
William
Murray.
Dafoe, moi j'adore dedans, il est parfait. Oui.
Mais comme tu dis, je trouve que des fois, il y a un peu. Trop, c'est peut-être. Enfin, moi, je trouve que Wes Anderson n'est jamais aussi bon quand il fait pas trop son Wes Anderson. Enfin, dans Darjeeling Limited, je trouve que
c'est vrai.
Il était plus dans l'émotion et dans quelque chose de plus direct. Et en fait, c'est... enfin, moi, c'est le film que je préfère dans sa filmographie.
Il boucle pas peut-être un cycle de films qui ressemble très fort, effectivement, à d'autres qu'il a pu faire. Je suis curieux de voir son prochain. Je pense que c'est un réalisateur qui va encore nous surprendre, en tout cas, et qui est libre. Ça, ça fait quand même plaisir à voir.
Et alors, on parlait de la bande dessinée. Enfin, c'est vrai que cette République du Zubrovka, là, ça fait penser à la Cécile David de Tintin, mais enfin, Olivier et Laurent, je ne sais pas si vous pouvez me contredire, mais moi, ça me fait surtout penser au Spirou d'Émile Bravo. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Le journal d'un ingénu,
ouais,
où Spirou joue un groom dans un hôtel.
Tu peux aller chercher plus loin, un Bretzelburg, tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Ça
ouais.
fait très fort penser à QRN aussi. C'est... Mm-hmm. Tu inventes ce fascisme de pacotille avec quand même une grosse gravité derrière. Tu retrouves ça dans la BD. Il y a un côté, encore une fois, cartoon. Dans...
Oui, cartoon et ouais, BD, clairement. Ouais.
Mm-hmm. Toujours ce pouvoir fantasmatique aussi de la mythe l'Europa. Mm-hmm.
Oui,
quand même. Exactement. Qui charrie quand même toujours des choses un peu mystérieuses comme ça pour à nos yeux d'occidentaux, et ça fonctionne assez bien, quoi.
Bon, ben moi je vais lui mettre 7 sur 10 à ce Grand Budapest Hotel parce que je trouve quand même toujours que ça manque beaucoup de fond, mais bon, voilà.
Ouais, moi, Nico. Comme je suis d'accord avec toi, je vais mettre 7 aussi. Mais...
D'accord.
Écoutez, je mets 8 parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir.
Ouais, moi aussi 8.
Expo 58, c'est le dernier roman événement de Jonathan Coe. Est-ce qu'on me dit Coe? Coe, c'est en flamand. Coe.
Coe. Ou en flamand, dit Jonathan Coe.
Ok.
C'est pas
en liégeois, on dit Coe. L'auteur very british du célébrissime Testament à l'anglaise. Il était d'ailleurs l'invité d'honneur de la dernière foire du livre de Bruxelles. Et oh, comme ça tombe bien, il situe l'intrigue de son livre à Bruxelles. Ben oui, je vous le donne en mille à l'Expo 58, l'Expo universelle sous l'Atomium. C'est un roman d'espionnage, oui, mais d'espionnage joyeux, avec Thomas Foley, un Anglais très ordinaire, marié, un bébé, qui s'ennuie un petit peu au ministère de l'Information et qui est envoyé à Bruxelles pour superviser le pub anglais, qui constitue l'une des attractions majeures du pavillon anglais à l'Expo, qui rencontre une charmante hôtesse flamande, Anneke, qui va lui faire tourner la tête et qui va se voir chargée d'une mission de la plus haute importance par deux espèces de Dupont et Dupont.
Complètement,
voilà.
Je savais que ta préférence Tintin était celle-là. Pour les autres, je cherche encore la troisième, mais celle-là, on est d'accord.
À savoir, cette mission, empêcher la technologie nucléaire anglaise de tomber dans les mains des méchants russes, ouais, on peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas très bien comment résumer ça. Enfin bref, c'est très drôle, mais pas que, c'est aussi un cliché du monde tel qu'il était et tel qu'il se voulait, tel qu'il aimait qu'on le voit en 58. J'ai passé quelques heures absolument délicieuse en compagnie de Jonathan Coe. C'est probablement pas un futur classique, hein. C'est un petit livre, mais c'est un petit livre vraiment très très savoureux, je trouve. Olivier, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as ri moins que moi, je crois?
Est-ce que j'ai ri? J'ai pas beaucoup ri, j'ai souri souvent. C'est vrai, c'est un petit livre, c'est dommage de le dire comme ça, parce qu'effectivement le pitch pour nous en tant que Belges donne évidemment envie. Jonathan Coe, c'est vraiment une figure, un héros de la littérature britannique, d'une certaine littérature britannique, very british comme tu l'as dit, qui s'attaque à ce moment, l'Expo 58, qui pour nous évidemment nous parle beaucoup, mais qui est effectivement un basculement des temps. Il joue beaucoup là-dessus dans le roman. C'est effectivement une époque qui se ferme un appel au modernisme, un espoir dans le modernisme qui aujourd'hui paraît ou désuet ou déprimant quand on le voit avec 50 ans de retard. Donc c'est intéressant, ça donne très envie. Ces premières pages sont, je trouve, parfaites, sont cocasses, savoureuses, quand les ambassadeurs reçoivent la lettre de demande des Belgiques et la remarque que font les Anglais. C'est parfait. Donc ça part très très bien, ça donne vraiment beaucoup envie. Et puis effectivement, je trouve que ça tombe un petit peu. Moi, je ne l'ai pas lu comme un roman d'espionnage ou comme une comédie ou un parodie de roman d'espionnage, mais plutôt comme une petite bluette qui, pendant 200 pages, finalement...
Une bluette...
Tourne très creux, où c'est ce personnage qu'on nous dit très beau et séduisant, mais qui finalement
dès le début, on l'a intégré.
Oui, mais c'est contradictoire. Je n'ai pas cru au personnage parce que... Le beau qui est incapable de dragouiller correctement toutes les jolies pépées de l'Expo 58 qui l'entourent, il y a quelque chose qui fonctionne pas, je trouve, dans ce personnage auquel on s'attache pas, qui est quand même...
Mais c'est pas une bluette, c'est quand même un type qui a envie de tromper sa femme avec la première venue, c'est pas une histoire d'amour.
Pendant 200 pages, c'est raconté de manière relativement légère.
Il résiste quand même pas mal.
Voilà, avec ce sens, de nouveau, very british d'une époque qui se ferme, où on n'imagine plus un homme réagir comme ça aujourd'hui, en rencontrant une jolie pépée pendant 6 mois sans sa femme et ses enfants, ce serait, je pense, plus direct. Donc voilà, sur cette manière. C'est vrai, soit ça se fait, soit ça ne se fait pas, mais pas ici. Il se tourne autour, il l'invite, champagne. On vient saupoudrer tout ça de choses autour de l'espionnage. Mais voilà, pendant 200 pages, ça m'a semblé très creux, et je trouve que c'est rattrapé à nouveau par la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé les 30-40 dernières pages, où d'un coup, ça vient mettre beaucoup de profondeur là-dessus. De nouveau, pas sur le côté espionnage ou ce genre de choses, mais sur un parcours de vie, sur les choix qu'on peut faire, sur une époque qui se tourne. Et il y a beaucoup de profondeur, presque de gravité, je trouve, dans les dernières pages, qu'il n'y a pas pendant 250 pages lourdes de légèreté.
Quoi. Vraiment en accéléré. Moi, je trouve que c'est un petit peu bâclé, je trouve, à la fin.
Ouais, ça t'a déçu aussi, toi.
Oui, je trouve que la Guinée, c'est un peu tiède, quoi. Je trouve.
Quelle belle métaphore.
Pas mal. J'aurais dû la noter.
À la fois, il a voulu jouer sur plusieurs tableaux, et je suis assez d'accord avec vous, un peu d'espionnage à la Ian Fleming, un petit peu de bluette du roman traditionnel anglais.
Voilà, complètement.
Kingsley Amis, etc. Mais. Il ne va pas jusqu'au fond dans aucun de ses styles, et du coup tout reste un petit peu en demi-teinte, et donc on ne rit pas beaucoup, on sourit de temps en temps.
Moi j'ai quand même bien ri. L'échange de correspondance avec
très anglais de nouveau,
c'est 10 pages sur le roman, enfin voilà, c'est très sympa, et ça apporte une accélération dans le roman, dans le récit. Mais pour le reste, si on regarde l'ensemble, voilà, lui, la description de l'Expo 58 est assez intéressante, nous qui ne l'avons pas vécu, puisque moi je suis l'année juste après.
Bon.
mais ça reste quand même un moment un peu emblématique dans l'histoire de la Belgique, et c'est vrai que de voir comme ça toute l'attention du monde concentrée...
En tant que Belge, c'est croustillant à lire. Croustillant.
Et je n'ai pas noté beaucoup d'erreurs, parce que c'est vrai que,
oui,
à part qu'il situe le plateau du Hezel à 30 km au nord de Bruxelles, qui nous situe presque à la mer...
Et qu'il emploie beaucoup de termes néerlandais. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les noms de rues, je ne vois pas pourquoi il doit mettre Vrijheidstraat plutôt que Rue des Libertés.
Il dit aussi que les Belges font 3 bises, c'est quand même plutôt les Français.
Oui, tout à fait, exactement.
Il y a des petites choses comme ça. Avant 58, on ne sait pas.
Ah oui. Ouais,
peut-être.
Il est bien renseigné. Apparemment, dans la liste des remerciements, il y a beaucoup
tout
de noms flamands.
Oui,
c'est vrai, il n'y a pas un nom francophone.
Mais il a aidé visiblement par le fond du livre flamand pour financer le temps d'écriture. Donc la Belgique est impliquée, il devait en dire du bien.
Voilà. Mais l'image des Belges est assez mesurée. À la fois, de temps en temps, ils sont un peu ridiculisés, mais pas trop.
C'est finalement effacé.
On se rend compte qu'à l'époque, la Belgique était un peu considérée comme un phare du modernisme, 30 ans d'avance sur l'Angleterre. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose.
Pas vraiment,
il effleure le sujet de la Belgique joyeuse, où on avait placé des Congolais, c'était le truc évidemment le plus polémique de l'Expo.
Et qu'on les avait, qu'ils les étaient partis.
Voilà, exactement. Il en parle, tout ça, visiblement, il y a beaucoup de véracité dans son bouquin. C'est ça qui est chouette aussi, il en parle à la fin. Les architectes qui nomment les bâtiments, les rendez-vous, tout ce qui s'y passe, ça sent le vécu, donc ça c'est amusant. Mais c'est amusant.
C'est vraiment par rapport à l'épaisseur, je pense, du personnage principal, où, par exemple, son rapport avec sa femme et son enfant, qui est quasi inexistant, on a du mal, par exemple, parmi les contradictions, moi, je note, c'est à la fois les réticences qu'il a à franchir le pas de l'infidélité, et en même temps, le peu d'investissement qu'il a dans sa relation avec sa femme et avec son enfant, dont il ne parle quasiment pas et qui vient de naître.
Tout à fait.
Et donc, pour moi, là, il y a des choses qui sont quand même un petit peu difficiles à concevoir.
Toi, parce que tu es un grand romantique, un petit cœur de beurre, mais des personnages comme ça, il y en a des tonnes, des personnages qui sont un peu, qui assistent
de manière passive à leur vie.
Par ailleurs, il essaye de nous montrer que le personnage est quand même quelqu'un d'assez sensible dans d'autres circonstances. Et là, il ne l'est pas du tout. Donc voilà, c'est comme s'il avait deux visages et j'ai un petit peu du mal à les rattacher.
Il y a côté Janus qui n'est ou pas exploité ou mal fait dans le bouquin.
Ah, moi, des hommes comme ça, j'en connais plein. Hein. Ah, je vous assure.
Et puis, peut-être qu'il y a aussi il y a une petite déception par rapport au parcours, à ce que Jonathan Coo nous avait déjà montré par le passé, ou dans le Testament à l'anglaise, qui est le roman qui l'a rendu le plus célèbre. C'était une satire britannique. Et, c'était quand même assez dur, assez critique. C'était les années Thatcher. Dans La Maison du Sommeil, c'était complètement loufoque. C'était à la fois une histoire aussi très sentimentale, mais dans un truc complètement dingue. Et donc ici, je ne retrouve ni l'ampleur, ni le souffle qu'il y avait eu dans Bienvenue au Club, où il passait des années 70 aux années 90, avec le cercle fermé. Donc c'était très ample. Ni le côté loufoque, donc de La Maison du Sommeil, ni le côté critique et satirique de Testament à l'anglaise. Je trouve que ça s'est un petit peu affadi. Voilà, d'où un peu ma déception.
Bon, Nico, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Tu l'as lu?
Oui. Par rapport, tu parlais du diptyque Bienvenue au Club et le cercle fermé. Ce que j'ai bien aimé ici dans ce bouquin, c'est que de nouveau, il a l'art d'articuler la grande histoire et les petites histoires, quoi, finalement. Mmh. Et les choses se répondent assez bien. Et c'est vrai que tout ce qu'il raconte sur l'Expo 58, c'est assez passionnant. Après, le bouquin, c'est clairement pas de la grande littérature, mais moi, j'ai trouvé ça drôle, efficace, assez malin. J'aime bien aussi la manière qu'il a d'articuler dans ses bouquins les sortes de grandes aspirations des individus et puis la trivialité complète du quotidien, et notamment ici de la vie de famille. Il est quand même assez dur par rapport à ça. Et par rapport au côté pas très développé de la psychologie du personnage, c'est vrai que de nouveau, là, on en revient un peu à la BD. Je trouve que c'est un peu un personnage de BD, quoi. C'est un peu, en fait, c'est un peu un Tintin chez Ian Fleming.
Mais tout à fait.
Mmh. C'est Tintin, il est dans un nid d'espions et il se comporte un peu comme un quête.
Il est pas naïf. Voilà. Il y a une fausse naïveté chez ce personnage. Soit il est bleu et il se comporte comme un bleu, soit il est plus séducteur ou plus conscient de ce qui est en train de se faire. Et ici, il est pas en permanence un peu entre les deux.
Ah, moi, je le vois vraiment bleu, quoi.
C'est un personnage.
Mais s'il était vraiment bleu dans sa relation maritale, il serait quand même beaucoup moins dans ce questionnement et dans cette réserve qui est parfois dure, puisque il dit lui-même qu'il regrette de s'être marié, non pas pour elle, mais de s'imposer finalement sa présence et son peu de sentiments. Enfin, c'est des choses assez dures.
Non, tout à fait.
Et un visage assez dur et plus fouillé que ce qu'on peut trouver dans du Tintin, le côté un peu plus allégé, qu'on retrouve par ailleurs quand il était à l'expo et qu'il tombe des nus dès que les Dupont et Dupont lui tombent dessus pour lui donner son ordre de mission.
Nico.
Non, voilà, j'ai tout dit. Hein.
Ah, tu as tout dit.
Oui.
Bon. Moi, je mets 8 sur 8. 8 sur 8. Bah oui, 8 sur 8. Ouais, c'est bien. 8 sur 10 pour cette expo 58 de Jonathan Coo. Oui, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Nico.
Je vais mettre un bon 7. Chouette bouquin.
Ouais, 7, moi je le conseille vraiment. Offrez-le à vos parents quand ils partent en vacances, ça leur fera plaisir. Mais c'est vrai, c'est un bon livre à conseiller vacances.
Que tout le monde peut aimer, en fait.
Oui, c'est assez large. Moi j'en resterai à 6 par rapport à ce qu'il m'a déjà montré avant.
Bon, d'accord. Expo 58 est publié chez Gallimard.
Of an 11-year-old child was found on Harbour Cliff Beach at Broadchurch.
God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving life.
La série dont tout le monde parle en ce moment, c'est une anglaise, c'est Broadchurch. Ouais, c'est difficile à prononcer, je l'avais jamais dit tout. Pourquoi on en parle? Parce qu'a priori, c'est pas un blockbuster et que pourtant, elle a cartonné sur France 2 où elle vient d'être diffusée. Je dis que Broadchurch n'est pas a priori un blockbuster parce qu'elle est assez lente, assez sinistre, plutôt grise, sans grosse tête d'affiche, avec des personnages qui ressemblent pas à des poupées mannequins et qui ont beaucoup de couches de vêtements sur eux. C'est une enquête policière sur le meurtre d'un petit garçon de 11 ans, Danny, dont on a retrouvé le corps déplacé sur la plage de la petite station balnéaire de Broadchurch, d'où le nom de la série. Le fait divers va affecter toute la communauté, où tout le monde se connaît et où tout le monde est suspect. C'est une sorte de Dix petits nègres contemporain, mais pas vraiment moderne pour autant. La première saison de la série clôt le chapitre et donc le suspense, un suspense qui fonctionne vraiment, même si, et je le regrette un petit peu, on retrouve ici toutes les grosses ficelles scénaristiques du genre, comme le fameux tandem de flics que tout oppose. Laurent, le chef, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette série?
Bien, je suis plutôt partisan, je me suis bien amusé. Mm-hmm. Enfin, bien amusé en
tout cas. Bravo.
J'ai accroché à la série, à la fois par son atmosphère un peu lourde, qu'on sent inspirée des courants scandinaves un peu qui descendent, comme ça, cette ambiance de polar atmosphérique. Je trouve que c'est assez plaisant, et comme tu disais, de voir des personnages qui ne sont pas des silhouettes de magazines de mode.
C'est
qui
pas ont, les experts.
Qui, voilà, qui ont un peu soit leurs petits problèmes physiques, qui sont dans une espèce de réalité de ce point de vue-là. Et alors, ce que j'ai aussi apprécié, c'est malgré le côté très cluedo classique, où on sait que tout se passe dans le giron, que c'est une espèce de milieu clos et que tout va se décider là à l'intérieur avec des personnalités un peu tranchées et dont on ne sait pas ce qui va devenir, mais enfin tous les éléments du crime et de l'enquête sont là. Ce que j'aime assez bien, c'est la réflexion derrière sur cette fausse normalité.
Ah, un avion passe.
c'est pas un ange.
Voilà, on va laisser atterrir. Donc sur cette fausse normalité, donc à la fois d'un côté on a ces apparences, et puis on se rend bien compte au fur et à mesure que derrière les sourires,
que tout est laid, que
voilà,
tout est
vilain, chacun a un mystère, a quelque chose à cacher, et tout ça va se détricoter, se révéler au fur et à mesure. Alors ça va pas jusqu'à Twin Peaks où on n'arrive pas dans des univers complètement décalés, mais il y a un petit côté comme ça qui fonctionne bien, que je trouve bien foutu. Alors c'est pas révolutionnaire, on est bien d'accord, ça n'apporte rien nouveau sur le principe de la série, mais vu sur 8 épisodes, de réussir à intégrer les meilleurs ingrédients du genre et à lui donner quand même une certaine atmosphère, je trouve ça plutôt réussi.
Tu disais quoi que ça ne
révolutionne? Je dis simplement, c'est pas révolutionnaire, par contre au niveau du format, c'est intéressant de voir que la mini-série a priori le vent en poupe, que ce format épisodes resserré sans promesse derrière, a priori ça a de l'avenir, ça marche à fond. On a parlé de True Detective, il y a beaucoup de fans autour de cette table, dont moi. Donc voilà, ce format là je pense a de l'avenir et est très moderne. Après effectivement on est dans du très classique, c'est du Cluedo de l'Agatha Christie, c'est du Wood Unit pour reprendre les termes de littérature policière classique. Et un meurtre qui a commis le meurtre, et on va aller voir chaque personnage, on sait qu'on va aller voir un par un,
pas vraiment d'alibi et
voilà,
des
qu'on
à cacher.
Va prendre les pelures. On sent venir la chose à partir du 5-6e.
Ah oui.
Si on a un peu de
découvert.
Mais pas seulement sur le scénario, c'est de nouveau sur les ficelles qu'on emploie. Tu repères le second rôle qui n'est pas trop exploité jusqu'ici, sur lequel on n'a pas encore grand chose à dire. A priori, ce sera celui-là. Et voilà. Pour le réflexion, c'est très plaisant.
C'est une sorte de spoil que tu viens de faire. Hein.
Non, pas du tout, parce qu'il y a 15 second rôles dedans, donc on peut chercher. Qui sont tous très bien foutus. L'adjointe, la femme flic dedans est parfaite. C'est vraiment le personnage typiquement anglais qu'on ne peut pas trouver dans une série américaine, qui fait le particularisme de la série et du ton à l'anglaise.
Débordé dans sa vie domestique comme dans ce travail.
Voilà, parfaite. À la fois détestable, à la fois super drôle, un gros cœur et en même temps une grande gueule. Enfin voilà, qui fonctionne vraiment très bien.
Ils ont engagé le chanteur de Puggy pour jouer le rôle principal.
Qui ressemble très fort. Qui est, il faut expliquer que le personnage de flic est celui qui joue le Dr.
Wu.
Série cultissime parmi les séries cultissimes, et donc incompréhensible à l'anglaise, typiquement anglaise. Mais voilà, donc c'est plaisant. Ça n'a pas la densité que d'autres séries peuvent avoir. Je comprends que ça fait un succès un soir de grand public sur une chaîne, une grande chaîne nationale.
C'est réjouissant quand même, parce que
c'est réjouissant. Il faut le voir en anglais. Ce qui n'est pas réjouissant, c'est qu'on le met en français. Donc ça veut dire qu'on enlève quand même 30 à 40% de l'intérêt d'une série comme ça. C'est un scandale de passer ça à la télé de cette manière-là. Mais c'est vraiment, c'est de la bonne série.
C'est ça, parce qu'on est quand même
la bonne télévision.
4 ou 5 niveaux au-dessus de ce qu'on voit sur les chaînes françaises.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien que ça ait fait un succès, a priori étonnant. J'ai pas suivi ça de près, mais ça fait un score.
Tu dis que ça prend la place de Castle.
Castle, qui est, je trouve, une très mauvaise série, mais très efficace, très américaine, avec des gens très beaux.
Non, ici, c'est pas le cas, effectivement. C'est plus lourd, c'est un autre rythme, c'est.
Il y a le suspense, mais il y a aussi de l'émotion. Il s'intéresse quand même pas mal aux relations dans intrafamiliales, etc.
Tu l'as dit, il y a un fond scandinave dedans très fort. Bon, après, j'ai toujours un problème, moi, avec ce ressort dramaturgique sur la mort d'un enfant. C'est un peu facile, forcément, t'es touché par un gamin qui meurt.
Moi, je m'en fous. Hein.
Bon, à part Myriam. Voilà, je trouve ça parfois un peu dommage d'avoir toujours ces extrêmes-là. On est plus touché par autre chose que des enfants qui meurent. Ce qui est très tendance en littérature et en série pour l'instant. il faut toucher les gens, donc on tue des gamins.
Oui, mais bon, il y a tout aussi, enfin, la mort d'un enfant, enfin, en fait, que ce soit le crime sur un enfant, c'est intéressant parce qu'il y a toutes les suspicions de pédophilie aussi dans la communauté.
Oui, le rôle des médias, oui. On voit les grands journaux qui débarquent parce que c'est un enfant.
C'est le journaliste, comme toujours, les journalistes sont vraiment des salopards. Hein.
Un peu quand même.
Et les habitants ont l'air d'être tous des pédophiles à un moment. Justement, on dit, est-ce qu'ils sont tous pédophiles? Je sais pas.
Ils ont l'air d'être un nid de vipère.
Ouais, c'est ça.
C'est ça l'intérêt, c'est là-dessus qu'il joue évidemment. Ouais. On enlève la couche énorme. Tout le monde a quelque chose à cacher et tout le monde a un peu de sombre dans son placard.
Même les gamins, même les jeunes enfants, ça c'est sympa. Plutôt.
Mais ça, autant ça marche, je trouve, dans une série avec une dimension un peu fantastique comme Twin Peaks, une dimension un peu bizarre, un peu où on accepte qu'ils aient tous effectivement un cadavre dans le placard ou quelque chose des secrets pas possibles. Ici, je trouve que comme on est dans un réalisme très anglais, enfin c'est vraiment hyper réaliste, à un moment les secrets ils deviennent un peu encombrant, enfin, je trouve que ça devient un peu trop. Et c'est dommage.
On sait que chacun va amener son petit bazar.
Parce qu'ils installent quand même un cadre où tout est censé être crédible et à un moment je trouve que ça devient un petit peu trop, ils ont trop de choses à cacher, enfin bon voilà. Mais sinon, comme Laurent le disait, c'est vrai que c'est autant un mélo familial qu'une enquête policière finalement. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de ralentis et de gros plans et de violonnades sur des visages tristes.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ralentis inutiles.
Et avec une lumière surexposée, enfin c'est très esthétisant comme ça, je trouve que ce côté-là c'est pas ce qui est le plus réussi. Et effectivement, les deux choses autour desquelles s'articule la série, donc c'est-à-dire cette petite communauté avec des secrets, on a vu ça 152 fois depuis Twin Peaks, et le couple de flics que tout oppose, c'est quand même pas c'est pas follement original.
Non, c'est sûr.
On l'a eu dans Tunnel récemment,
pour
prendre un peu des atmosphères assez proches.
Mais si ça peut donner le goût de nouveau aux grands médias de passer des séries anglaises, tant mieux, parce qu'il y a souvent de la qualité, et quand ils sont drôles, ils sont très drôles, donc...
Et donc il va y avoir un remake américain apparemment.
Et un français aussi.
Avec David Tennant qui reprendrait son propre rôle. Quoi. Ouais,
alors qu'il est peur, ça,
alors qu'il est très anglais,
Avec Nick Nolte.
Avec
Nick Nolte. C'est peut-être trop directif saison 2, on ne sait pas.
Bon, eh bien, moi je mets 7 sur 10 à Broadchurch. Toi, Nico?
Je vais mettre 6. J'ai trouvé ça parce que tu parlais aussi d'Olivier de quelque chose de très resserré, le fait que c'était une mini-série. Pour moi, ça aurait pu faire 3-4 épisodes. Je trouve qu'à un moment, il dilue quand même beaucoup. Je trouvais ça très long et pas très original, donc je vais mettre 6.
D'accord.
Pas très dense, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Un bon 7.
Oui, moi, 7 aussi pour encourager les chiens à aller plutôt dans cette direction-là.
Bravo.
En VO, s'il vous plaît, en VO.
Je dois vous dire que la première saison de Broadchurch ne va pas tarder à sortir chez nous en DVD. Et ça aussi, on peut l'offrir à nos parents.
Voilà, parfait.
En fait, c'est une émission pour nos parents.
Ravis, oui,
voilà. C'est le nom de l'album de Pharrell Williams, devenu officiellement le parrain de la journée mondiale du bonheur. La faute à un single, Happy, qui l'a fait basculer dans la catégorie des feel-good artistes. Et c'est vrai que c'est un disque feel-good printanier, gentiment sautillant. On est très loin des chiens qui aboient et de la sensualité agressive de son vieux tube She Wants to Move qu'il chantait avec Nerd. Notre camarade Laurent Aubrex m'ôte totalement les mots de la bouche en écrivant ceci au sujet de Girl dans Focus. Hit Machine de 2013, Pharrell Williams en profite pour nous sortir son premier album solo en 8 ans. Pop, rétro, funky et aussi inutile qu'irrésistible. Inutile, en effet, me semble-t-il. Nicolas, qu'en penses-tu ?
Je ne trouvais pas ça si inutile que ça.
J'étais persuadée que tu allais trouver ça atrocement irritant.
Ah non, j'ai trouvé ça assez irrésistible, justement. Mais c'est clair que c'est léger et que Pharrell Williams, il n'a pas inventé la poudre, mais il sait comment la faire parler.
Oh là là.
Faut pas qu'on souligne nos effets parce que ça les casse à chaque fois. Faut continuer dans la lancée.
Oui, fais semblant de rien.
Fais semblant de rien. Mais on sent clairement les influences ici. Enfin, le premier titre qui souffre sur des... Il y a pas mal de violon en fait. c'est très orchestré comme ça dans les arrangements. Moi, ça me faisait penser à du vieux Quincy Jones, comme ça, mm-hmm. ce qui est plutôt une qualité, c'est bien. Il y a des choses plus moites, un peu à la Jackson 5. Enfin, je pense au titre Brand New, je pense qu'il chante avec Justin Timberlake. Mm-hmm. On sent aussi clairement les accointances avec Justin Timberlake, des trucs très, très mouillés, très humides, comme ça.
C'est peut-être un peu vrai.
Et c'est assez chouette, je trouve ça assez intelligent, assez efficace. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est que sur la longueur, Pharrell étant plutôt une sorte de faiseur de tube, comme ça, je trouve que sur le format album, ça fonctionne pas toujours. Donc les 5-6 premiers morceaux sont, je trouve, assez parfaits dans leur genre. Hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus.
Que des hits, là, non.
Oui, oui, c'est pas. C'est je veux dire, ils ne renouvellent rien, mais c'est tout des super. Enfin, les morceaux sont canons, vraiment, les 5-6 premiers morceaux. Sur la fin du disque, on en a un peu marre, je trouve, on a un peu envie d'entendre autre chose. Mais voilà, et donc j'ai trouvé que c'était un peu le genre de disque à même de nous réconcilier finalement, Myriam. Donc moi, mon côté requin des dépressifs et suicidaire, et toi ton côté
j'ai pas senti le requin des suicidaire dans le
non mais
vraiment mais pas du tout quoi.
Non, c'est pas ça, je dis pas qu'il y a ça dans le disque, mais il y a une certaine exigence dans l'écriture qui fait que
d'accord
que voilà, je trouve que c'est assez appréciable. Et ce qui est appréciable aussi, c'est le côté nonchalant de Pharrell. Enfin, ça on le connaît, mais on a l'impression que c'est vraiment super facile pour lui. Mm-hmm. Donc ce disque, il l'a fait comme ça une après-midi sans vraiment travailler quoi.
Est-ce que quelqu'un regarde l'interview de Pharrell par Enor à Malagré.
On doit vraiment parler. Oui. On doit avouer qu'on a regardé ce genre de choses. Oui.
Qu'est-ce qu'on en a pensé?
Bah, c'est piteux, voilà. C'est triste. Voilà, mais c'est là où
Ça rassure sur nos questions, enfin sur notre pratique journalistique.
Bah, c'est aussi où Pharrell Williams en est arrivé. C'est plus une vedette de la chanson, c'est une sorte de d'attrape-truc populaire où on va le placer à toutes les sauces, que ce soit Virgin Radio ou dans les bacs de supermarché. Il a atteint une dimension.
Ouais. C'est un peu le prototype énorme, de la pop culture qui est maintenant.
C'est le summum de la pop culture.
De dictature de la culture. Mm-hmm. Et du coup, ce personnage-là qui en est une espèce de petit prince, mais on le voit, on le retrouve partout, comme tu dis.
Il a atteint une autre dimension.
Il est à la fancifère du gamin en fond. Et,
du happy, les fancifères, on va les entendre. Ça, je vous le dis déjà.
Mais tant mieux qu'on entende ça.
C'est plutôt un bon morceau, ça marche. Mais je veux dire, c'est ça. Il a atteint une dimension qui le dépasse et qui dépasse presque son album. Est-ce qu'on peut en dire au niveau musical? Et tu vois le parcours de ce type, tu disais que c'était imparable. La formule, c'est imparable son truc, c'est parfait quoi. C'est pas spécialement que ça me parle, c'est très pop. Je préférais son côté hip-hop, on peut discuter longtemps là-dessus. Mais purée, c'est super bien produit, c'est pile poil au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Au niveau marketing, tu peux être certain que ces 12 morceaux, tu vas les entendre en hit, en pub, sur les mannequins vont défiler sur ces morceaux. Enfin voilà, il va être partout, dans tous les magasins, dans tous les supports. C'est vraiment le prototype de la pop star du 21e siècle, l'époque Twitter, Facebook, Happy. C'est aussi un succès parce que c'était
cette campagne virale.
Voilà, c'est
viral dès le départ. On fait pas ça.
Avec la rédaction de Focus, on ferait bien un lip-dub sur Happy, non?
On en reparlera après. Mais tu m'as dit que je ressemblais au boucher de Galerie Sans Eux. Tu peux compter.
Tu feras un lip-dub de 24 heures, Olivier.
Mais non, le fils beau du boucher.
Ah, c'est ça, rattrape-toi.
Bien sûr.
Donc voilà, sur l'album. Il faut quand même regarder le parcours de ce type, c'est quand même incroyablement impressionnant. Il a 40 ans, tout ce qui touche, c'est de l'or. En 2013, il était dans absolument tous les bons coups. Et il y a peu de fausses notes depuis que ce mec a commencé sa carrière avec les Neptunes, les Nerds au niveau production. Il était dans tous les bons coups. Toute la planète américaine a fait des morceaux avec lui. C'est le problème de Pharrell, tu sais plus qui feature avec qui. Est-ce que le morceau avec Timberlake, c'est un morceau de Pharrell avec Timberlake ou Timberlake avec Pharrell? Ces productions se ressemblent beaucoup, tu retrouves des sons que t'as entendus plein de fois. On retombe dans les travers à la Daft Punk qui sont... C'est pas novateur, c'est vraiment de la pop telle qu'on pouvait la faire il y a 20 ou 30 ans, du pop funk comme on la faisait, comme tu citais Jones, Jackson 5.
Mais lui-même, je trouve, n'a pas beaucoup évolué en fait quand on regarde sa carrière. Ce qu'il produisait chez. Moi, le premier morceau,
Marilyn Monroe. Moi, je préférais les Neptunes, évidemment.
Quand il produisait Britney Spears, je trouve que l'ouverture de l'album, la Marilyn Monroe, ça fait vraiment penser à ça, à Boys de.
Ah, c'est à plus gentil que Britney Spears, parce que moi, je me souviens de I'm a Slave for You de Britney, qui était vraiment un morceau super moite, un peu sale.
Oui, mais ça, la pop, ça reste pour Britney, donc il a franchi il vient du hip-hop, il a une street credibility vraiment importante, ce type s'est quand même fait tout seul, ils ont quand même un parcours incroyable. Donc voilà, ici ça devient une sorte d'aboutissement, mais plus objet pop que musical finalement.
Cela dit, quand il y a unanimité sur un artiste comme ça, en général c'est un peu le début de la fin.
Oui, je me disais ça aussi, il va commencer à s'en manger, mais...
Mais si on considère que la musique, c'est une espèce d'apéritif comme ça, c'est, il atteint un peu les sommets, quoi, avec son grand chelem.
Écoute, il n'y a que des hits ici, tu mets ça en voiture quand il fait beau, voilà, c'est parfait, ça marchera, tu vas entendre des soirées, tu vas.
Ouais, mais
tout le monde va aimer ça.
En 2013, il a eu Get Lucky, il a eu Bloodlines.
Voilà, ouais. Happy. Voilà. Les gros hits qui ont fonctionné, il est dedans. Il est dans tous les bons coups, c'est quand même très impressionnant. Quoi.
Ouais. Malgré son chapeau.
Laurent, encore quelque chose à dire sur le sujet ou...
Non, je crois que tout a été dit. Ouais, je trouve ça,
bien.
Personnellement, je trouve ça un petit peu trop volatile comme musique. Voilà, mais comme dit Olivier, au bord d'une piscine, avec le soleil qui brille et
un petit cocktail.
Voilà, ça passera très très bien.
C'est un pur album de printemps. Hein, c'est clair.
Mmh. Ouais. Ouais, mais c'est pas sûr que je vais le garder dans ma mémoire auditive pendant des siècles.
Oui, non, moi non plus. Je lui mets 7 sur 10, Nico.
Oui, 7. C'est un bon 7.
Olivier.
Moi, je mets un 8 pour l'ensemble de la carrière du monsieur.
Et Laurent.
Et moi, pour tempérer, un petit 6.
Rapidos, le tour de nos tout derniers coups de cœur. Vous en avez préparé ? Oui, c'est bien. Non, Olivier. Alors, personnellement, c'est un article, car oui, je sais lire, et pas un article de Focus, pour une fois. C'est un long papier du dernier numéro de Vanity Fair, le making-of de Pulp Fiction. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu.
Non.
Qui raconte par le menu la jeunesse du film qui deviendra le plus rentable de l'histoire, son scénario qui bousculait toutes les règles, dont celle de l'orthographe et de la grammaire, l'intervention de Harvey Keitel sans qui rien n'aurait été possible, le casting houleux de Samuel L. Jackson, les coups de poker des frères Weinstein. À travers ça, c'est vraiment un portrait de toute l'industrie du ciné hollywoodien de l'époque qui se dessine. C'est absolument passionnant et c'est aussi assez désespérant puisqu'il apparaît très vite qu'un film comme celui-là ne serait plus du tout possible aujourd'hui. C'est donc dans le tout dernier numéro du Vanity Fair français avec Barack Obama en couverture. C'est un excellent magazine, je vous le recommande chaudement, même si évidemment il n'est pas aussi bon que le nôtre. Nico.
Mais Pierre,
bah, ça donne envie. Je vais lire ça.
C'est très long, c'est ça qui est gay, des très longs papiers, ça n'existe plus ça.
C'est vrai.
J'en parlerai au chef.
J'ai 26 pages à te vendre sur un obscur auteur de BD. Nico, ton coup de cœur.
Alors, mon coup de cœur, c'est un disque, c'est même un groupe, on va dire, mais qui sort un nouveau disque. Le groupe s'appelle Les Marquises, c'est un groupe français, donc il vient de sortir un nouveau disque sur le label Ici D'ailleurs, qui est un label français, sur lequel se trouvent des trucs aussi recommandables que le groupe Mendelssohn, on en a déjà parlé, je pense, dans l'émission, ou l'ancien diabologue Michel Kloup.
Ouais.
Truc assez plombé, on va dire, mais fort. Donc c'est le projet d'un bonhomme, un Lyonnais, qui s'appelle Jean-Sébastien Nouveau, qui s'entoure de toute une série de très bons musiciens français, dont Étienne Jomet, en fait, donc la moitié de Zombie. Je sais pas si ça, t'as pu me regarder avec des grands
mais
yeux,
tout
ça,
à fait.
Ça parle.
Oui.
Okay, fais comme moi.
Et donc ce nouvel album, il s'appelle Pensée Magique. Et c'est un album qui est inspiré par toute une série de films qui se passent dans la jungle. Donc, on pense notamment au film de Werner Herzog, film de Jean Rouch, Les Maîtres Fous.
C'est quoi, on va écouter un court extrait? Ah oui, attends, ça c'est de la magie parce que chez moi, au montage, je vais insérer un extrait ici. Écoutez. La nuit tombe sur la mer, le cri des corps s'éclaircit d'un seul coup et je l'envoie dîner. Nico, tu peux parler.
Voilà, un très bel extrait.
Super.
Donc on pense à donc des films, ouais, des films de genre, et on pense même pas à ça. Lui-même s'est clairement inspiré, donc il a regardé des films, il a essayé de retranscrire un peu cette atmosphère-là. On pense par moments à des trucs même comme Cannibal Holocaust, enfin des trucs un peu moites de nouveau qui se passent dans la jungle, un peu sale. Et c'est un disque assez, enfin qui tourne autour des rythmes, c'est très tribal, assez envoûtant, assez fascinant. Ça fait penser par moments à du krautrock, donc ce rock allemand des années 70, hyper répétitif. Voilà, donc l'album s'appelle Pensée Magique, c'est un peu ardu de prime abord, surtout si on l'écoute à jeun.
J'ai pas fini de noter toutes les références que tu m'as dit.
Mais ça vaut la peine d'assister. C'est un album vraiment fascinant. Donc ça s'appelle Pensée magique de Les Marquises.
D'accord, merci voilà. Nicolas Clément. Olivier Van Varenberg.
Je vais être plus léger, hein. Je préviens, mais deux choses. Pour changer aussi le petit buzz internet pour l'instant, il faut aller voir la séquence de Zach Galifianakis
avec qui Barack interview Obama.
C'est juste parfait, c'est drôle. Donc il faut expliquer le contexte en deux mots. Galifianakis, c'est le gars qui joue dans Very Bad Trip, on le connaît surtout pour ça, mais il fait surtout du stand-up aussi aux États-Unis, de l'humour. Et ici, c'est dans des séquences qu'il fait sur le web Funny or Die.
Ah, oui.
Et donc il fait, c'est ça, c'est Between Two Ferns, donc entre deux fougères, et c'est des interviews foutraque faites à la dernière minute où il s'en fout un peu, où il est désastreux avec les gens qu'il invite. Et ici, c'est quand même le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, qui vient se prêter à ce truc, et c'est à pisser de rire. C'est très drôle, c'est incroyable de penser qu'Obama se prête à un jeu comme ça, c'est presque trop. Enfin voilà, une de ses premières questions, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être le dernier président noir? Ça donne tout de suite un peu le ton dans lequel on va se situer dans l'interview.
Et c'est pas faux tout ça. Hein.
Et c'est parfait, ouais. Vraiment c'est parfait, il faut aller voir ce truc. Alors deuxième chose en BD, puisqu'on en a pas parlé, il y a beaucoup de sorties, je conseille d'aller voir les pages Focus. Mais entre autres, parce que là aussi ça m'a fait beaucoup rire, le dernier Guillaume Bouzard, parce que Bouzard c'est toujours très bien, qui s'appelle Moi BD, en jouant avec son nom Bouzard, et donc c'est des récits qu'il avait publiés dans Flux Glacial, des récits courts sur son métier de dessinateur, comment ça se passe. Et voilà, c'est du Bouzard, donc ça a l'air très léger, c'est un gag à toutes les cases, et l'humour se trouve et dans son dessin beaucoup plus malin et fin qu'il n'y paraît, et aussi dans ses dialogues. Ce type est un dialoguiste, un raconteur d'histoires, mais merveilleux. C'est d'une drôlerie rare, donc vraiment il faut sauter sur tout ce que fait Bouzard. Et voilà. Moi BD, c'est le dernier qui est sorti chez Flux Glacial.
D'accord. Et Laurent, avant qu'on nous chasse, parce que je sais pas si vous entendez, on essaie de casser la porte pour nous exfiltrer de cette salle de réunion.
Mais je vois que tu as mis une chaise devant.
Ah oui, c'est Nico, pour caler la porte. Oui, chef.
Donc moi, on reste dans la BD, mais avec un monument en devenir, puisque c'est un ouvrage un peu hors norme, comme on en fait plus beaucoup aujourd'hui, parce que en papier, ça paraît complètement hallucinant. Donc c'est un ouvrage qu'on doit à un Allemand qui s'appelle Jens Harder, qui s'est lancé dans une trilogie où il raconte tout simplement l'histoire de la Terre et de l'humanité.
Oh bah oui.
En toute simplicité. Donc il a publié il y a 2-3 ans, le premier c'est Alpha, où il raconte la genèse de la Terre, de notre planète. Et là sort la première partie du deuxième volet, Beta Civilisation, où il se lance donc dans le récit des origines de l'homme jusqu'à plus ou moins à l'apparition de Jésus-Christ. Alors c'est génial parce que les planches sont vraiment magnifiques, c'est un gros bouquin, 360 planches.
A priori, ce n'est pas une comédie.
Ce n'est pas une comédie, mais c'est très prenant, très, très lisible, parce qu'il y a peu de texte, pas trop de blabla, et il arrive à mêler des planches magnifiques. C'est un peu une espèce de Léonard de Vinci, en fait, qui raconte notre histoire, et il mêle les planches, ces dessins de dinosaures au départ, et puis de Homo sapiens, Néandertal et compagnie, avec des images de la pop culture, des extraits de films. Il fait des parallèles. Un exemple, il prend une image du film La science des rêves de Gondry avec les mains géantes pour expliquer le début de l'appréhension chez l'homme. Voilà, et ça se télescope, mais ça fonctionne super bien. Ça allège évidemment les choses, et ça crée surtout cette idée qu'il y a un prolongement entre nos origines et ce qu'on est aujourd'hui, qui n'est évidemment que l'aboutissement et en devenir. Mais ça se fait avec beaucoup de naturel, et ça nous rend très sympathiques et très proches de nos lointains ancêtres, dont certains ont plusieurs millions d'années. Voilà, c'est passionnant, et donc il y aura encore deux volumes à venir. Et je trouve que cette espèce de cathédrale dessinée mérite notre attention et fera très belle place pour nos enfants.
À offrir à nos parents.
Tu en parlais comme la Sagrada Familia.
Exactement.
De
oui.
Rappelle-nous le titre et l'éditeur.
Alors, donc c'est Beta Civilisation, volume 1, donc de Jens Harder, et c'est chez Actes Sud, leur collection L'An 2.
C'est parfait. Bon, eh bien, je crois qu'on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Et oui, c'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur Facebook, sur la page facebook.com/focusstore. N'hésitez pas à réécouter nos 26 épisodes précédents sur iTunes et Podomatic. Déjà 26. Putain, 26. Ouais. Et lisez-nous, évidemment, chaque semaine dans Focus avec le Vif L'Express. Salut tout le monde, salut l'équipe.
Salut, salut.
Et à bientôt. Ciao.
Ciao.